17h à Nouakchott, 18h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. La lutte contre le groupe État islamique au proche au Moyen-Orient pour commencer. L'armée syrienne soutenue par l'aviation de la Russie et les combattants arabo-kurdes appuyés par les États-Unis opéraient séparément aujourd'hui pour prendre en étau le groupe État islamique dans le nord de la Syrie. Le point avec Jacques Aristide.
Les forces du régime avancent vers le sud-est et se trouvent à 30 km de l'aéroport de Tabqa et à 24 km du lac Assad, un large réservoir d'eau dans la vallée de l'Euphrate, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Tabqa est située à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Raqqa, la capitale de facto du califat autoproclamé de l'EI. De l'autre côté, la coalition arabo-kurde des forces démocratiques syriennes est à 60 km au nord et n'avance plus vers le sud car son objectif prioritaire est la prise de Minbej, une localité stratégique pour les Kurdes. En ce premier jour du Ramadan, des raids contre un marché dans l'est de la Syrie ont causé la mort d'au moins 17 civils. Le I, qui compte entre 19 et 25 000 combattants en Syrie et en Irak, selon les estimations américaines, doit également résister à une offensive d'envergure en Irak, où les forces gouvernementales cherchent à s'emparer de sa place forte de Fallujah.
La lutte contre Boko Haram en Afrique maintenant. Le Niger encore plus déterminé à poursuivre le combat contre les djihadistes nigériens après leur attaque massive vendredi soir contre la localité nigérienne de Bosso, proche du Nigeria. Une attaque qui a tué 30 militaires nigériens et 3 confrères nigériens, selon un communiqué du ministère de la Défense à Niamey. D'après les images de la télévision d'État nigérienne, retransmises aujourd'hui, le ministre nigérien de la Défense, Assoumi Massaoudou, a visité Bosso en compagnie de hauts gradés de l'armée nationale et du général nigérian Lamidi Adeosun, patron de la force multinationale anti-Boko Haram qui regroupe des unités du Nigeria, du Niger, du Cameroun et du Tchad. Assoumi Massaoudou a promis que le Niger laverait l'affront subi à Bosso, qui est maintenant une ville fantôme vidée de ses quelques 20 000 habitants. Nigeria, le président nigérian Muhammadu Buhari est aujourd'hui à Londres en congé de 10 jours pour se faire soigner pour une otite, a indiqué son cabinet. Le vice-président Yemi Osinbajo dirige le pays en son absence comme le prévoit la Constitution. L'état de santé du chef de l'État nigérian, 73 ans, suscite des inquiétudes vu la réticence traditionnelle d'Abuja à communiquer sur les maladies des présidents dans le passé. L'ancien président Oumaru Moussa Yar'Adua est décédé dans l'exercice de ses fonctions en 2010, des suites d'une maladie des reins entourée du plus grand secret. Burkina Faso, le président burkinabé Roch-Marc Christian Kabore a sommé dans la nuit de dimanche à lundi le général Isaac Zida, ancien premier ministre du gouvernement de transition, de revenir au pays pour rendre compte de sa gestion. M. Kabore a même menacé M. Zida qui avait été mis en place après la chute du président Blaise Compaoré fin octobre 2014, de considérer son absence comme une désertion, sans toutefois lui fixer d'ultimatum pour rentrer. Depuis son départ du gouvernement, Isaac Zida, qui est accusé de corruption dans un rapport officiel, est parti vivre au Canada auprès de sa famille, qui s'y était rendue alors qu'il était en fonction. À la question de savoir si le Burkina Faso avait écrit au Canada pour lui demander de faire rentrer Isaac Zida, le président Kabore a dit: on n'en est pas encore là. Au Bénin, les jeunes se révoltent contre les opérateurs de téléphonie mobile avec 2 jours de boycott. Ce mouvement est largement suivi, nous dit notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Le boycott a été suivi par bien de Béninois. Pour ceux-ci, l'État et les responsables des réseaux de téléphonie mobile ont eu le temps de se faire du beurre sur le dos des populations.
Là où nous sommes, là, il n'y a pas d'argent. Avant d'acheter le crédit, là, c'est difficile.
Il faut que l'État cesse de nous sucer au niveau des GSM. L'État est comme une maladie qui nous conduit vers la mort.
Pour Nestor Derwindji, économiste et membre de la plateforme, le boycott 229 est une action salutaire qui pourrait redonner vie au panier de la ménagère qui s'affaiblit pour avoir trop contribué à payer des frais de communication trop élevés.
Ce que nous voulons faire, c'est d'améliorer le visage économique du pays. Quelle marge vous allez vous faire comme argent pour aller au marché. Quel argent utiliserez-vous pour nourrir votre petite famille? Je pense que le boycott est une bonne chose parce qu'il va permettre aux populations de mieux vivre.
Les jours à venir seront déterminants pour ces associations de jeunes qui ne comptent reculer qu'à la satisfaction complète de leur demande, à savoir la baisse du coût de la communication et une meilleure qualité des prestations fournies à prix d'or. De Cotonou, Ginette Fleu Adondé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Kenya, une manifestation de l'opposition contre la commission électorale a mal tourné aujourd'hui à Kisumu, dans l'ouest du pays. L'intervention de la police a fait 2 morts et 6 blessés. Eric Manirakiza.
La Croix-Rouge et des témoins affirment que ces personnes ont été victimes des tirs de la police. L'opposition manifestait pour réclamer la dissolution de la commission électorale. Elle estime que la commission est partiale et ne saurait garantir l'équité de la présidentielle d'août 2017, qui devrait opposer une nouvelle fois le président sortant Uhuru Kenyatta et Raila Odinga, le chef de l'opposition. Selon l'AFP, la police anti-émeute affrontait toujours des manifestants dans le bidonville de Kondele, en périphérie de Kisumu. Le 23 mai, 3 personnes ont été tuées dans les mêmes circonstances. Depuis le 25 avril, l'opposition et la société civile ont intensifié les manifestations qu'elles avaient suspendues le 25 mai pour donner une chance au dialogue avec le gouvernement. Face à l'échec de ce dialogue, la pression de la rue a repris. La haute cour kenyane vient de réconforter cette option en rejetant la demande des députés de la majorité d'interdire ces manifestations. Après cette décision, des manifestants ont envahi Uhuru Park dans le centre de Nairobi avant de se diriger vers le siège de la commission électorale en compagnie des leaders de l'opposition.
Crise au Burundi maintenant. Un journaliste burundais a été arrêté par la police hier dans la province de Cibitoke dans le nord-ouest, puis remis au service national de renseignement. Les services secrets burundais qui dépendent de la présidence. Selon une source policière à Cibitoke, Egide Ndayisenga de la radio Bonesha FM a été interrogé sur d'éventuels liens avec des radios d'opposition basées au Rwanda et sur des voyages qu'il effectuerait régulièrement dans ce pays, dont les relations sont très tendues en ce moment avec le Burundi. Le journaliste dément ces accusations. On passe au Tchad. Plus de 77 000 candidats, toutes séries confondues, se présentent aujourd'hui aux examens du baccalauréat de l'enseignement général et technique sur toute l'étendue du territoire national. Parmi les candidats, une centaine de jeunes réfugiés soudanais installés dans le camp de Ouré Kassoni, à plus de 1 000 km de N'Djamena. Plus de détails avec notre correspondant sur place, André Kodmajinga.
88 candidats réfugiés soudanais installés dans le camp de Ouré Kassouni, sous-préfecture de Cariari, région de l'Enedi-Est, se lancent dans cette compétition avec le cursus tchadien pour la 2e année consécutive. Et c'est grâce au ICR et ses partenaires qui non seulement ont pour seul mandat la protection de ces personnes vulnérables, mais aussi se préoccupent de l'éducation de celles-ci. Pour Solo Kadjangaba, manager éducation de l'IRC International Rescue Committee, malgré que le cycle moyen et secondaire soit logé dans le même bâtiment de 4 salles, par manque d'infrastructures d'accueil, les encadreurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes.
En classe de terminale actuellement, nous avons 80 en série A et 8 en série D. Sur les 88, nous avons 71 filles et 17 garçons.
Pour le chef du bureau du ICR, Damjaras Bemba Diallo, le camp de Ouré Kassouni est le premier camp où le pourcentage des filles est très élevé à l'école. Voici la justification du coordonnateur terrain de l'IRC Didier Kouziwara et Fidèle.
Nous avons organisé vraiment des grandes sensibilisations pour que les femmes et les filles soient aussi impliquées pour la formation. Et ça contribue beaucoup plus à l'implication des filles plus que les garçons.
Lorsqu'on a fait le bac l'année passée, on a retrouvé que ce sont des filles qui ont beaucoup de pourcentage que les garçons. Et cela, ça contribue aussi à ce que les autres filles aient aussi le courage de venir étudier.
L'inspecteur départemental de l'éducation nationale, Damjaras Togum Kadi, explique comment il a pu concilier les deux systèmes.
Auparavant, il pensait que le système tchadien peut s'imputer sur le système soudanais. Je les avais expliqué que c'est le même système. La première année, nous avons évalué. Eux-mêmes, ils ont apprécié ce système. Et effectivement, ils veulent à ce que nous les outillons encore par des formations typiques. Je demande à ma hiérarchie, aussi bien que nos partenaires, d'intervenir de sorte que certaines salles de classe soient construites et aussi limiter la pléthore au niveau du camp.
André Kodumadjingar, de retour d'Amdjaras pour VOA Afrique.
Merci de votre attention. Avec vous, Henri Francisque. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de VOA Afrique.